Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour à tous. Bonjour Déborah, comment allez-vous?
Bonjour Virginie. Eh bien, ça va très bien.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, il y a des fois où ça va moins bien, mais là, ça va très bien, tout va bien.
Oui. Ah bah, de toute façon, vous nous enlevez toujours une épine du pied, quel que soit le pied d'ailleurs, mais c'est toujours un plaisir en tout cas de vous avoir, parce que grâce à vous, on en apprend bien évidemment sur notre alimentation, mais aussi sur nos bonnes pratiques alimentaires. Et alors cette semaine, vous allez échanger avec nous sur un sujet qui, pour le coup, m'intéresse tout particulièrement, mais pas que moi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être très très intéressés. On aura sûrement peut-être beaucoup de questions, et peut-être qu'on trouvera aussi les réponses justement à ces questions tout au long de cette émission, puisque nous allons voir avec vous ensemble comment notre sommeil influence ce que nous mangeons. Alors la question, Déborah, où est le lien entre sommeil et nutrition tout d'abord?
Et oui, en fait, le sommeil et la nutrition sont deux piliers essentiels de notre bien-être. Et effectivement, de nos jours, en tout cas sur les personnes que je rencontre en consultation, ont beaucoup, beaucoup de difficultés sur le sommeil. C'est vraiment la difficulté du siècle, quoi, je dirais.
Oui.
Et bien que l'on sache depuis longtemps que ce que nous mangeons peut affecter la qualité de notre sommeil, il est de plus en plus évident que l'inverse est également vrai. D'ailleurs, vous avez certainement dû le remarquer, mais notre sommeil a un impact profond sur nos choix alimentaires et notre santé globale. Et quand on manque de sommeil, on a une alimentation qui va être légèrement différente.
Oui.
Justement, aujourd'hui, j'ai pensé intéressant d'explorer le lien étroit entre le sommeil et la nutrition, en mettant en lumière comment la qualité de notre sommeil peut influencer ce que nous mangeons.
Oui.
Donc, on va le voir.
C'est vrai que, vu dans ce sens-là, comment la qualité du sommeil influence ce que l'on mange, il y a aussi le fait de ce que l'on mange, comme vous le disiez très justement, qui influence aussi sur notre sommeil. Et c'est vrai que dans nos sociétés d'aujourd'hui, on a aussi des choses qui viennent alimenter un peu tout ça, si je puis dire, notamment notre travail. Beaucoup de gens finissent par faire leur journée la nuit. Quelles sont ces conséquences immédiates?
Le manque de sommeil peut avoir de nombreuses conséquences néfastes pour la santé et surtout sur notre comportement alimentaire, puisque c'est ce qui nous importe un peu aujourd'hui, entre autres. Outre la fatigue et la baisse de concentration qui, psychologiquement, nous incite à manger en pensant faussement tenir et avoir plus d'énergie quand on va manger, il a été démontré que le sommeil insuffisant était lié à une augmentation de l'appétit. En particulier pour des aliments plutôt sucrés, puisque les aliments sucrés sont précurseurs de sérotonine. Donc la sérotonine, c'est le neuromédiateur qui va donner lieu à la mélatonine, etc. Donc c'est le neuromédiateur qu'on retrouve en réalité à l'endormissement. Cela vient également du fait que la privation de sommeil perturbe les hormones qui régulent l'appétit, notamment la leptine, qui est l'hormone de la satiété, et la ghréline, qui est l'hormone, elle, qui régule la faim, et l'insuline. L'insuline étant l'hormone qui régule le glucose, et donc, enfin, le sucre. Et donc, ce qui explique en partie pourquoi aussi on va être attiré vers des aliments à tendance plutôt sucrée lorsqu'on manque de sommeil. Et donc, ça conduit très souvent à une augmentation de la faim et à avoir différentes fringales qui nous amènent tout au long de la journée à manger plus que nécessaire. Surtout quand notre comportement et notre relation à l'alimentation sont perturbés, notamment quand on a du mal à écouter les perceptions et les signaux corporels de faim, par exemple, et de rassasiement, bien qu'elles soient biaisées avec le manque de sommeil, elles sont quand même présentes, ces signaux. Et si on rajoute à ça une perturbation de la relation à l'alimentation, ça fait plusieurs facteurs sur lesquels on doit travailler quelque part.
Alors, on va parler de tout ça dans quelques instants. Juste avant, je vais vous proposer une petite pause. Alors, si vous souhaitez réagir sur l'émission ou poser vos questions, j'en profite tout de suite maintenant. Vous avez à votre disposition le numéro de téléphone suivant, le 06 66 94 59 02, ainsi que la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Déborah et nous parlons actuellement du sommeil et des conséquences de notre nourriture sur notre capacité à nous reposer. Nous évoquions juste avant la pause les fringales, Déborah. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc à ce sujet?
Oui, en fait, tout simplement, le manque de sommeil peut intensifier les fringales et par conséquent des pulsions alimentaires, c'est-à-dire des moments où on a du mal à s'arrêter de manger. En particulier envers des aliments plutôt énergétiques. Les personnes qui dorment mal ont souvent tendance à rechercher des aliments assez riches énergétiquement pour compenser leur fatigue. Cela peut entraîner une surconsommation de calories et donc une prise de poids, surtout si, comme d'habitude, la relation est perturbée à la nourriture. Et le paradoxe, c'est que la digestion ayant lieu, cela amène à plus de fatigue qu'initialement, et ça crée donc une sorte de cercle vicieux où on va se retrouver à manger pour essayer d'être moins fatigué, mais on va se retrouver plus fatigué au final. Mm-hmm. Vous voyez, en fait, c'est un peu, il y a un peu beaucoup de cognitif également là-dedans.
Mais on a conscience de ça ou pas? Parce que quand vous disiez qu'effectivement, on allait rechercher des aliments assez riches énergétiquement parlant pour compenser cette fatigue, est-ce qu'on a vraiment conscience de la relation sommeil et nourriture?
On en a conscience si on travaille dessus. On en a conscience si on arrive à faire des liens. Mais de nos jours, si on n'a pas l'habitude de travailler sur le rapport à l'alimentation ou d'être accompagné, par exemple, en psy, les personnes ont du mal à faire des liens entre les actions qu'elles mettent en place et l'impact et leurs conséquences. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la capacité de la personne à prendre de la distance sur son hygiène de vie globale et sur sa façon de faire.
Oui, puis c'est rare qu'on se dise « Ah bah tiens, je mange, peut-être que je manque de sommeil ». C'est assez rare quand même. Hein, c'est vrai que le lien, il n'est pas forcément systématique. En tout cas, c'est intéressant. Également, les restrictions alimentaires. Alors, parlons-en. Est-ce que, par exemple, le fait de se restreindre pour la nourriture, est-ce que ça aurait un impact aussi sur notre sommeil?
Et oui, énormément. On pense souvent peu, d'ailleurs, à l'impact des restrictions alimentaires sur notre sommeil. Et pourtant, elles ont une influence cruciale pour provoquant par la force des choses des déséquilibres alimentaires. Je prends par exemple des restrictions en féculents, dont le bruit court, par exemple par les pseudo-coachs en nutrition qu'il faut limiter leur consommation le soir pour ne pas grossir. Outre cette croyance qui est des plus fausses, réduire ses féculents le soir en revient à réduire son apport glucidique à un moment où où nous en avons le plus besoin, parce que le soir, on a un besoin majoré en sucre, en apport glucidique. Le sucre étant précurseur de sérotonine et donc de mélatonine, qui sont des hormones, enfin des neuromédiateurs, hormones indispensables à l'endormissement. Donc, l'apport glucidique mis à part, des restrictions alimentaires génèrent souvent des carences en micronutriments, notamment en magnésium, qui a lui aussi un rôle indissociable sur la synthèse d'énergie de manière générale dans notre corps, mais également sur celle de la sérotonine. Donc en fait, on amène peu à peu, progressivement, par le biais de toutes ces restrictions, à des dysfonctionnements qui peuvent impacter en première intention le sommeil avant d'impacter le comportement alimentaire. En fait, tout est lié, quoi. Quand le sommeil commence à être impacté, le microbiote intestinal aussi peut être impacté, notre énergie de manière générale est impactée. En fait, tout est combiné dans notre façon de faire.
Oui. Alors, vous parliez justement du fait que c'est plutôt le soir où on réduit notre apport glucidique, alors que c'est là où on devrait avoir, enfin, compte le plus besoin de sucre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, manger un petit carré de chocolat comme ça, qui est sucré, avant de se coucher, ça serait bien pour aller dormir?
Éventuellement, si on en a envie, mais quand je parle de sucre, ça peut être bien évidemment des choses plaisir comme ça, mais ça, c'est surtout notamment sur les féculents.
Oui.
Les féculents, en fait, sont indispensables, outre à la satiété, mais ça amène beaucoup de glucides qui permettent justement de sécréter de la sérotonine qui va elle-même à son tour sécréter de la mélatonine.
Donc une bonne tartiflette le soir, les pommes de terre, c'est parfait.
Les pommes de terre, des pâtes, du riz, mais qui sont en fait tout à fait inclus dans un équilibre alimentaire de manière générale. Une personne qui n'a pas de perturbation à la relation alimentaire ne va pas forcément se restreindre là-dedans. Mais il y a beaucoup de bruit qui court avec tous les régimes restrictifs et compagnie, et tous les pseudo-coachs qui sortent un peu de partout sur les réseaux sociaux en nutrition, qui vont vous sortir qu'il faut absolument réduire le sucre, surtout le soir, parce qu'on stocke. Mais en fait, tout ça, ça émane de croyances qui sont, pour le coup, la plupart, leurs propres croyances. Et donc, les personnes sont un peu perdues là-dedans.
Oui, puis c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'on pourrait manger justement des féculents le soir, parce qu'on pourrait se dire, c'est trop lourd, par exemple, on va mal digérer, donc on va mal dormir. On pourrait se dire ça aussi, ça fait partie des choses que souvent on entend.
Bien sûr, on peut se dire ça.
Hein, et c'est pas très bon, alors, finalement, de penser ça.
c'est trop lourd quand on en mange trop.
Oui.
Mais si on travaille sur soi et qu'on arrive à entendre, à ajuster à ses justes besoins, c'est pas trop lourd.
Je sais pas si j'arriverai à réduire ma consommation de frites, mais bon.
Alors, si vous travaillez sur vous d'un point de vue nutrition, je vous assure que vous arrivez à la réduire.
Oui.
Ou en tout cas, à l'ajuster. Parce que le but, c'est pas de la réduire, c'est vraiment de l'ajuster.
Oui, oui. Oui, comme ça, il n'y a pas de frustration. Puis en même temps, on profite de pouvoir développer de la mélatonine, qui est donc cette hormone du sommeil. C'est bien cela?
Oui, sérotonine, mélatonine, exactement.
Oui, très bien. Alors, est-ce qu'on refait un petit point sur l'alimentation et le sommeil, du coup?
Oui, à l'inverse, bah justement, un sommeil de qualité est souvent associé à des choix alimentaires beaucoup plus conscients et optimaux. Lorsque nous sommes bien reposés, nous sommes plus enclins à faire des choix alimentaires équilibrés et à porter notre attention sur nos besoins, sur les besoins de notre corps. Il est donc plus facile de reconnaître, par exemple, les signaux de faim et de rassasiement et de les écouter si nous avons décidé de les écouter. Nous avons également plus d'énergie pour cuisiner, par exemple. Le sommeil permet de réguler la plupart des hormones de notre métabolisme et également notre cycle circadien, qui est le cycle biologique de notre corps, qui est en lien, en fait, avec chaque personne. Chaque personne a son propre rythme biologique et c'est très, très, très important. C'est un pilier indissociable du prendre soin de soi et de l'équilibre, de manière générale, du bien-être, en fait, le sommeil.
Qu'est-ce que c'est exactement le cycle circadien pour les personnes qui découvriraient ce mot ?
En fait, on pourrait résumer ça au rythme biologique de notre horloge biologique, de manière générale. Temps de sommeil, tant d'heures pour être réveillé, tant d'heures pour manger, tant d'heures, voilà. C'est le cycle, en fait, de notre métabolisme, de notre corps. Si, par exemple, notre sommeil est perturbé, on dérègle notre cycle. Le cycle circadien, il est beaucoup en lien avec la luminosité, par exemple. Les personnes, pour donner un exemple, les personnes qui vont travailler dans des endroits qui sont très fermés, où il n'y a quasiment pas de lumière, voire pas du tout, et ben, dans les périodes d'hiver, peuvent se retrouver à prendre du poids, parce que ça dérègle leur cycle circadien.
D'accord. Ah oui, c'est important quand même de savoir tout ça. De la même manière que j'imagine une personne qui dort avec peut-être trop de lumière, qui rentre dans la chambre par exemple, pourrait s'en trouver perturbée aussi.
Bah, ça peut perturber le sommeil, exactement. En tout cas, le sommeil, il a ce grand rôle de remettre tout en équilibre. Et j'avais vu, j'étais tombée sur une émission il n'y a pas longtemps, où il y avait un grand chercheur qui disait que, par exemple, on ne dort pas pendant, je crois que c'était 10 jours, et ben on meurt.
Ah bien sûr, de toute façon.
On ne peut pas vivre sans dormir.
Bien sûr, c'est vital. Hein, c'est sûr que c'est dormir, c'est salvateur si on ne dort pas. Oui, bien sûr. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va faire une petite pause. Et on reviendra donc dans quelques instants pour parler du sommeil et de son influence sur ce que nous mangeons.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et justement, nous allons avec vous, Déborah, nourrir notre sommeil. En tout cas, essayer de bien se nourrir afin de trouver le bon sommeil. Alors Déborah, comment peut-on améliorer la qualité de notre sommeil?
Eh bien, nous l'avons vu, hein, le sommeil est vraiment... améliorer la qualité de notre sommeil est vraiment indispensable à notre santé. Déjà, il me semble primordial d'avoir un comportement alimentaire favorable à une relation alimentaire apaisée, sans restriction alimentaire donc, ou toute lutte, que ce soit envers nos émotions ou notre corps, pour ne pas générer, comme on l'a vu, des carences alimentaires et des dysfonctionnements. Ce comportement donc, dont découlera forcément des choix alimentaires optimaux en termes de nutriments. Également favoriser au possible une assiette santé, donc la base de l'équilibre alimentaire, notamment retrouver une protéine, mais des féculents, des légumes, de la matière grasse, en tenant compte de ses propres besoins sur l'instant présent. Boire suffisamment d'eau quotidiennement est aussi important, mais de façon progressive, de façon à assouvir une hydratation optimale de nos cellules et à vider notre vessie progressivement et non pas en pleine nuit. J'ai par exemple des patients qui ne boivent pas toute la journée et puis qui se retrouvent à boire des quantités de dingue juste avant de dormir.
Oui.
Donc forcément, ils se réveillent 10 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Et en fait, ça perturbe leur sommeil.
Bien sûr,
inévitablement.
Bien sûr.
Et donc, c'est un peu problématique. On s'attachera aussi à laisser un temps de digestion favorable d'au moins 2 heures. L'idéal, c'est vraiment 3 heures, mais si on ne peut pas, on peut cesser 2 heures entre la fin du repas et le coucher pour avoir vraiment une bonne digestion. Ne pas hésiter non plus, par exemple, à faire des petites activités douces, par exemple, aller marcher, mais de manière très lente après un repas, ça permet de bien digérer. Donc, ça permet d'être... c'est intéressant.
Oui, il ne s'agit pas d'aller faire du handball ou du basket.
C'est
sûr.
Non, ce n'est pas le but. Avant de dormir, ce n'est pas le but. Mais aller marcher tranquillement, se balader, ou même à la maison, faire des petites activités plutôt douces. Éviter bien sûr les excitants comme la caféine ou la théine. Hein, c'est de la même molécule, le café et le thé. Donc ça aussi. Côté sommeil, il me paraît important d'établir une routine de sommeil régulière, c'est-à-dire de se coucher tout le temps le plus possible à la même heure et de se lever le plus possible tout le temps à la même heure, justement pour cadrer sur le cycle circadien. Même, je sais qu'il... Alors, je suis pas spécialiste du sommeil, mais je sais qu'il est très conseillé, même les jours où on est de repos, de se lever à la même heure que les jours où on travaille, pour justement avoir un rythme régulier sur le sommeil, mais qui va réguler tout le rythme de notre journée, en fait.
Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai, parce que des fois, on se repose un peu trop, enfin, entre guillemets, et on a l'impression qu'on est encore plus fatigué que si on n'avait pas dormi.
Mais oui, hein, c'est bizarre. En fait, c'est des déséquilibres. Mm-hmm. Donc, c'est conseillé, même si on est fatigué, pour recadrer notre sommeil, d'avoir le plus possible la même heure de coucher et la même heure de réveil. Et quand c'est bien réglé, ça... Parfois, on va se réveiller tout seul, naturellement, sans besoin de réveil, à la même heure, tous les jours. Mmh. Ben ça, c'est un signe que le cycle circadien est bien cadré.
Oui, alors justement, vous parliez de cette routine de sommeil régulière, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi de routine de repas? Parce que finalement, vu que c'est lié au sommeil, à quel moment, par exemple, est-ce qu'il faudrait arrêter? Vous avez parlé de 2 heures, 2 à 3 heures avant de dormir. À quel moment est-ce qu'il faudrait, pour bien faire, pour respecter un peu un rythme naturel, puisque nous sommes quand même des animaux, donc on est sensible à la lumière du jour. Hein, donc, je ne dis pas qu'il faut dormir bien comme les poules, mais est-ce qu'il y a un moment, justement, où il faudrait se dire, là, ce n'est plus l'heure de manger? Par exemple.
Alors, pas du tout, en réalité. Ça dépend de chaque personne. Alors, après, le seul moment où il ne faut vraiment pas manger, même quand on a faim, c'est au moment de la nuit. Si on se lève dans la nuit, on a par exemple une insomnie, notre sommeil est perturbé, et qu'on va commencer à aller manger parce que notre mental, je ne sais pas, peut nous raconter qu'on ne va pas réussir à dormir si on ne mange pas, ça, c'est de la prise de poids assurée. En fait, il faut respecter au niveau des repas un rythme de jour au possible, même si on travaille de nuit, par exemple. Oui. Et donc, au niveau des horaires, il n'y a pas vraiment de règles sur les repas, parce que si on fait bien les choses et de façon fiable, on se cale sur notre ressenti alimentaire, sur notre faim. Donc, on va peut-être avoir faim... pas forcément à la même heure tous les jours.
Oui.
Mais quand on est bien, enfin, quand on a de façon très générale, hein, mais quand on a une vie qui est plutôt identique tous les jours, qu'il n'y a pas des décalages horaires tous les 2 jours, que c'est plutôt régulier, de manière générale, on va tout le temps avoir faim aux mêmes alentours horaires,
oui,
quand on est bien cadré. Mais ce n'est pas une vérité absolue.
On écoute bien Déborah et on ne se relève pas pour aller dans le frigo manger du saucisson à 3 heures du matin.
Ah ouais, surtout pas. Mais alors ça, c'est vraiment le meilleur moyen de dérégler toutes les hormones. Et c'est pour ça, en fait, qu'on prend du poids. Les personnes qui bossent de nuit et qui mangent dans la nuit, elles ont quasiment toutes des difficultés de poids. Ça, c'est bien documenté. Hein.
Oui, bah, ce serait intéressant d'ailleurs, hein, une émission là-dessus, Déborah, je pense, pour faire résonance à celle d'aujourd'hui, puisqu'on a finalement assez peu parlé des personnes qui travaillent de nuit et qui, elles, n'ont pas le choix parce qu'elles sont complètement déréglées. Finalement, c'est la même chose dans l'autre sens, si on veut bien.
Non? Oui, bien sûr, c'est la même chose dans l'autre sens.
C'est-à-dire que le jour, il faut respecter son sommeil, et puis la nuit, bah, faut respecter les comme si on était dans la journée, finalement.
Bien sûr, après, ces personnes travaillent de nuit, donc elles peuvent pas forcément, elles vont forcément dormir à un moment donné dans la journée, puisqu'elles travaillent de nuit. Mm-hmm. Donc ça va un peu perturber leur façon de faire. Mais elles vont se caler à un autre cycle circadien quelque part, pour résumer les choses. Mais du coup, leur alimentation, il faut qu'elle soit cadrée sur, sur une routine de jour. Mmh. C'est très important.
D'accord.
Et Il faudrait que le dernier repas soit à 22h30, quoi, maxi, par exemple.
D'accord. Et hors antenne, vous avez parlé tout à l'heure pendant la pause de l'exposition aux écrans aussi, éventuellement.
Oui. Bah, ça aussi, je sais que c'est conseillé de ne pas regarder trop les écrans avant de dormir, parce qu'il y a la lumière bleue, en fait, qui provoque aussi, au niveau cognitif, des réflexions. Si on regarde un film, par exemple, avant de dormir, juste avant de dormir, eh ben, on peut être encore en train de réfléchir au film, etc.
Et surtout en fait, si c'est un film d'horreur.
Surtout si c'est un film d'horreur ou un film très triste, par exemple.
Oui.
Et ben en fait, notre cerveau va pas s'arrêter. Et en fait, dès qu'on passe le cap où on a des espèces de coups de barre, en fait, c'est par cycle un petit peu, les coups de barre qu'on a quand on va dormir. Et ben en fait, on a loupé le coche et il faut attendre toute une période, le moment de l'endormissement. Ouais.
Ah ouais, donc finalement, tous ces films font appel à nos émotions et ramènent un peu des choses qui nous empêcheraient de dormir éventuellement, tout comme nos journées que l'on continue la nuit.
Tout à fait. Tout à fait. Donc il faut, peut-être de la lecture, c'est plus intéressant, quelque chose de reposant en fait avant de dormir. Mais de la lecture, pas non plus d'un thriller, quoi.
Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion ?
Tout simplement que le lien entre le sommeil et la nutrition est indéniable, que la qualité de notre sommeil influence directement nos choix alimentaires, notre appétit et notre santé globale. Prendre soin de notre sommeil peut non seulement nous aider à mieux manger, mais aussi à nous maintenir dans une santé optimale. En comprenant ce lien étroit, nous pouvons adopter des habitudes de sommeil plus saines, plus régulières, pour favoriser une alimentation équilibrée et une meilleure qualité de vie. En somme, veiller à un sommeil de qualité devrait faire partie intégrante de toute stratégie de santé et de bien-être, aux côtés d'une alimentation équilibrée et bien sûr de l'exercice régulier, c'est-à-dire d'être, sans forcément parler d'exercice, mais d'être dans la mouvance le plus possible, de travailler sa mouvance, de ne pas être dans la sédentarité. Notre sommeil, notre alimentation sont interconnectés. Et en prenant soin de l'un, vous prenez soin de l'autre, inévitablement. Ce qui nous permet de mener une vie plus saine et plus équilibrée, tout simplement.
Eh ben, c'est tout ce que l'on se souhaite mutuellement, Déborah. Merci en tout cas pour cette superbe émission sur le sommeil. Alors, on a dépassé un peu notre temps, mais c'était chouette parce que c'était important. Et puis, je pense que vous aurez certainement l'occasion d'y revenir. Nous aurons le plaisir, bien sûr, de vous entendre la semaine prochaine sur un nouveau sujet tout aussi intéressant. Et puis, bien sûr, qui concerne nos pratiques alimentaires ou l'alimentation en général, avec bien sûr vos précieux conseils. Alors, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien, vous pouvez sur le site de nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Déborah, je vous remercie.
Merci à vous, avec grand plaisir.
Et puis on se dit à la semaine prochaine alors.
À la semaine prochaine.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.